Vous écoutez, on lit pour vous.
Hausse des cas rapportés aux policiers pour des crimes à caractère sexuel dans les transports collectifs à Montréal. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 19 juillet 2024 dans Le Devoir. En un an, le nombre de cas rapportés aux policiers pour des crimes à caractère sexuel dans les transports collectifs sur l'île de Montréal a connu une hausse importante selon des données obtenues par Le Devoir. Cette augmentation pourrait être due au fait que davantage de personnes décident de dénoncer, notamment dans la foulée de campagnes de sensibilisation, d'après des organismes. De 2022 à 2023, le nombre total d'agressions sexuelles, de contacts sexuels, d'incitations à un contact sexuel et de voyeurisme rapportés dans les transports en commun sur le territoire de l'île de Montréal est passé de 55 à 82, selon des chiffres transmis par le service de police de la ville de Montréal, SPVM. Ces données concernent les voitures et stations de métro, les autobus et les abribus, les trains, les rails de chemin de fer, les stationnements incitatifs, ainsi que les autres moyens de transport public. Des compagnies de transport ont connu une augmentation de leur achalandage dernièrement, comme celle de 21% observée à la STM de 2022 à 2023, sans toutefois revenir au niveau pré-pandémique. De 2022 à 2023, la hausse des cas de crimes sexuels dans tous les transports en commun sur l'île de Montréal rapportée au SPVM, elle, correspond toutefois à environ 49%. Ces chiffres, alarmants, sont possiblement que la pointe de l'iceberg, soulève Roxane Déniger, organisatrice communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, CEAF. Plusieurs personnes sont encore réticentes à signaler aux autorités ce qu'elles ont subi, de peur de ne pas être crues, affirme-t-elle. Il reste que la parole des victimes se libère de plus en plus, estime pour sa part Déborah Trent, directrice générale du Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal, CVASM. Une hausse des cas rapportés aux forces de l'ordre ne signifie d'ailleurs pas nécessairement qu'il y a eu plus de crimes à caractère sexuel cette année-là. Cela pourrait plutôt être le signe que les victimes sont plus disposées qu'avant à parler de ce qu'elles ont subi, dit-elle. Des campagnes de sensibilisation faites récemment ont indiqué à la population qu'elle a le droit de dénoncer, que la société soutient les personnes victimes et qu'on les croit, souligne-t-elle. Madame Trent mentionne l'initiative « Témoins, agissons » dont la phase 1 a été menée au printemps et à l'été 2023 par la Ville de Montréal, le SPVM et la STM. Elle visait notamment à outiller les citoyens pour qu'ils puissent intervenir en toute sécurité lorsqu'ils assistent à du harcèlement de rue, décrit comme des comportements blessants adoptés par des inconnus que l'on peut voir au quotidien et qui sont souvent banalisés. Exemple, siffler une personne dans la rue ou des gestes criminels. Exemple, frapper quelqu'un. Cette campagne avait aussi pour objectif d'inciter les citoyens à demander de l'aide et à recueillir l'information nécessaire afin de pouvoir porter plainte, le cas échéant, explique le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Joint par Le Devoir, il indique que la deuxième phase de l'initiative « Témoins, agissons » sera lancée à l'automne prochain. Nous espérons qu'elle contribue à diminuer les gestes de harcèlement à Montréal. De son côté, le SPVM a décliné notre demande d'entrevue au sujet des chiffres qu'il a fournis. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur les raisons expliquant ces données sans tomber dans les hypothèses et nous travaillons toujours à partir de faits, a-t-il écrit. Vous écoutez, hausse des cas rapportés aux policiers pour des crimes à caractère sexuel dans les transports collectifs à Montréal. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 juillet 2024 dans Le Devoir. Harcelée chaque semaine. Ariane Souza-Caron, qui réside à Québec depuis peu, raconte avoir subi chaque semaine des regards insistants dans les transports en commun lorsqu'elle habitait à Montréal. Éloquente et joviale, la femme de 25 ans baisse la voix en relatant avoir été suivie jusque devant chez elle, il y a environ 2 ans, par un homme qui était dans le même autobus qu'elle. Il est sorti au même arrêt que moi, puis il m'a accosté, je lui ai dit que je n'étais vraiment pas intéressé. Il a quand même continué à me suivre et m'a attrapé par la main. J'ai continué à marcher plus loin, puis je me suis rendu devant ma porte. Il était derrière moi et il insistait pour que je lui donne mon numéro. Je lui ai répété que je n'étais vraiment pas intéressé et je suis rentré en barrant ma porte, se remémore-t-elle. Aujourd'hui, elle constate que le fait d'avoir vécu plusieurs épisodes de harcèlement de rue a fini par créer chez elle un sentiment d'insécurité dans les transports collectifs. Ça a pris de l'accumulation pour qu'à un moment donné, je me dise « ne t'habille pas comme ça dans le métro, mets-toi un gros manteau pour sortir et enlève-le plus tard ». Les harceleurs de rue ne correspondent pas à un profil spécifique de personne, souligne Ariane Souza-Caron. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel homme qui a l'air de n'importe quoi. Les femmes en sont victimes dès leur jeune âge, ajoute-t-elle. Il y a une perte de confiance qui se produit. Ça brise une sorte de bulle, car les adultes sont supposés, techniquement, te garder en sécurité. Mais dans ce genre de situation, ce sont d'eux que provient le danger. Agir en tant que témoin. Lorsqu'elles sont témoins de harcèlement de rue, plusieurs personnes choisissent d'ignorer la situation, car elles ne se sentent pas outillées pour aider les victimes, explique Roxane Déniger du CEAF. Il y a aussi une question de banalisation. Certains vont penser que ce n'est pas grave, que ça ne leur appartient pas et que celle qui subit ça n'a qu'à s'en aller. Quand elle était harcelée dans les transports collectifs, Ariane Souza-Caron aurait toutefois aimé voir les passagers autour d'elle réagir. Juste le fait de venir voir quelqu'un qui est en train de vivre ça et lui faire du « small talk », ça peut vraiment aider. Ce n'est pas très confrontant et c'est rassurant. Dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à faire appel aux employés de la STM comme les chauffeurs d'autobus, soutient le directeur Sûreté et Sécurité et Incendie, Jocelyn Latulippe. Sur les quais de métro, il y a des téléphones d'assistance et dans les stations, il y a tous les employés, précise-t-il, en s'abstenant de commenter les chiffres du SPVM, car ils ne concernent pas que les installations de la Société de transport de Montréal. Dans les voitures de métro, on retrouve des interphones pour communiquer directement avec les opérateurs de train. Il y existe aussi des freins de secours à utiliser en cas d'extrême urgence, indique-t-on sur le site web de la STM. Depuis janvier 2024, des ambassadeurs de sûreté habillés en bleu et noir sont en poste pour accompagner les passagers de la STM qui ne se sentent pas en sécurité, ajoute M. Latulippe. Avec les constables spéciaux, ils sont formés spécifiquement pour recueillir, entre autres, les dénonciations de victimes de harcèlement de rue. Notre défi, c'est de créer ce lien de confiance avec les clientes. Et on réussit à le faire par la formation qu'on donne à nos employés, soutient-il. Notre mission, c'est de transporter des humains. Donc, on veut agir de façon humaine, ajoute Jocelyn Latulippe. Joint par Le Devoir, le réseau express métropolitain, entré en service officiellement à la fin du mois de juillet 2023, affirme par écrit que son personnel d'intervention est présent pour veiller à la sécurité des passagers. Nous tenons également à rappeler que nos voitures ainsi que nos stations sont munies de caméras et d'un système de communication directe avec notre personnel d'opération, ce qui permet de rapporter toute situation problématique et d'intervenir rapidement en cas de besoin, souligne Francis Labbé, directeur adjoint aux relations avec les médias chez CDPQ Infra. Quant à EXO, un organisme de transport qui dessert les couronnes de Montréal, il dit prendre au sérieux chaque événement qui lui est signalé. On souhaite lancer un message à nos clients de ne pas hésiter à interpeller notre personnel sur le terrain et dans nos services. Si jamais ils sont témoins d'un événement, s'ils sont victimes ou s'ils ne se sentent pas en sécurité. On est là pour les accompagner, c'est une priorité pour nous, soutient la porte-parole de l'organisme, Catherine Maurice. C'était « Hausse des cas rapportés aux policiers pour des crimes à caractère sexuel dans les transports collectifs à Montréal », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 19 juillet 2024 dans Le Devoir.
Autochtones disparus et assassinés, les actions se font toujours attendre. Un texte de Marianne Despelleteaux de Franco-Presse, paru le 4 juin 2024 dans Le Franco, en Alberta. Parmi les 231 appels à la justice émis par l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées il y a 5 ans, seulement 2 ont vu le jour, selon l'Assemblée des Premières Nations, APN. L'organisme dénonce un manque de volonté politique. En 2019, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ENFFADA, publiait son rapport final. Il contenait 231 appels à la justice distincts visant les gouvernements, des institutions, des fournisseurs de services sociaux et les Canadiens. Quand le rapport final a été publié, il y avait beaucoup d'espoir pour du changement, a rappelé la chef régionale de l'APN pour le Nouveau-Brunswick, Joanna Bernard, en conférence de presse le 3 juin 2024. Alors que nous réfléchissons aux 5 dernières années, il est clair que la prévention de la violence contre les femmes, les filles et les personnes de divers genres des Premières Nations demeure urgente. Notre bilan montre un mélange d'avancées et de reculs. Ellipse. Dans de nombreux domaines, aucun progrès n'a été enregistré. La chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Nepinak, demande au gouvernement de redoubler d'efforts. « Nous appelons à la solidarité des Canadiens », a-t-elle déclaré lors de la même conférence de presse. « Ce n'est pas une bonne journée, c'est une journée où on se souvient de l'horreur. » Volonté politique, racisme et engagement. « Je crois que c'est une question de volonté politique », a répondu Cindy Woodhouse, questionnée sur les raisons pour lesquelles si peu d'avancées ont été accomplies en 5 ans. On a écrit ce rapport et c'est comme s'il tombe un peu à plat. Le gouvernement semble avoir cette tendance de financer des rapports, mais l'engagement n'est pas là après leur publication. Alors, on pourrait même dire qu'il gaspille de l'argent, a lâché Joanna Bernard. Le chef régional par intérim de l'APN au Manitoba, Sheldon Kent, a dénoncé le racisme persistant au Canada. « Nous sommes tous des êtres humains, nous tous. On veut tous une belle vie », a-t-il dit. « Mais il faut que les politiques et les cœurs des gens changent. Nous devons agir collectivement. » Une petite robe rouge accrochée à son veston, le ministre des Relations couronne autochtone, Gary Anandasangari, a assuré que le gouvernement poursuit son travail. « Ultimement, nous allons mettre fin à cette crise », promet-il en mêlée de presse. « Il y a du travail à faire qui prendra, dans certains cas, des générations. » Selon lui, parmi les 215 appels à la justice qui concernent le gouvernement fédéral, des avancées ont été réalisées pour 107 d'entre eux. 53 autres ont été mis en action. Le ministre n'a toutefois pas précisé à quel stade ces 107 appels sont rendus. Il a aussi dit qu'avec tout le respect qu'il doit à la chef nationale de l'APN, il devra examiner le nombre d'appels mis en œuvre. D'après lui, plus que 2 des 231 sont déjà mis en place. D'autres enjeux à affronter. Joanna Bernard a profité de cette journée pour parler de l'incarcération des femmes autochtones. En plus de la crise des filles et des femmes disparues et assassinées, il existe un autre problème troublant. La surincarcération de celles-ci. Cette surreprésentation dans les établissements correctionnels est liée aux mêmes problèmes que ceux qui ont conduit à l'augmentation de la violence à leur égard, ce qui les expose également à un risque de surpolissage et de surincarcération. D'après le Bureau de l'enquêteur correctionnel, BEC, 50% des femmes incarcérées au Canada sont autochtones, alors qu'elles ne représentent que 5% de la population de femmes au Canada. Cette surreprésentation a atteint ce niveau pour la première fois en 2022. Selon Joanna Bernard, mettre en œuvre les appels à la justice permettrait en partie de s'attaquer à ce problème. C'est une question de vie ou de mort pour les filles, femmes et bispirituelles autochtones. Au sujet des services correctionnels, le ministre Gary Anandasangari explique que ces institutions ne sont pas facilement transformées. Ce qui a pris 154 ans à construire, d'une perspective coloniale, ne sera pas transformé en 5 ans. Juin, mois thématique. Dwayne Aucoin représente la région du Yukon au conseil 2ELGBTQQIA+ de l'APN. Il rappelle que le mois de juin est le mois national de l'histoire autochtone, mais aussi celui de la fierté. Des 32 appels à la justice pour les personnes bispirituelles, aucune n'a été mise en place, a-t-il déploré. Il appelle à des réformes au sein de la police. Peu de progrès ont été réalisés pour garantir la sécurité des personnes bispirituelles dans le contexte policier. Bien que certains services de police offrent des formations sur les questions bispirituelles, celles-ci ne sont pas universellement disponibles et ne sont pas obligatoires. Dwayne Aucoin ajoute qu'en raison de la méfiance envers les forces policières, de nombreuses personnes bispirituelles ne dénoncent pas les violences qu'elles subissent. L'alerte robe rouge. Le 3 mai dernier, le Canada et le Manitoba ont annoncé qu'ils unissaient leurs forces pour développer un système d'alerte qui informerait la population lorsqu'une fille ou une femme autochtone est portée disparue. C'est un petit pas, mais un pas important pour s'assurer que nos proches reviennent à la maison, avait indiqué la députée néo-démocrate Lee Gazin dans le communiqué de presse annonçant le partenariat. Celle-ci est à l'origine d'une étude sur l'alerte robe rouge au sein du Comité de la condition féminine, entamée en mars dernier. Elle a aussi fait adopter une motion au Parlement, adoptée à l'unanimité, visant à déclarer que la crise des femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées est une situation d'urgence à l'échelle du Canada. Il est honteux de constater que seuls 2 des 231 appels à la justice ont été mis en œuvre, ce qui est inacceptable, a déclaré la députée le 3 juin en mêlée de presse. Le gouvernement de Justin Trudeau ne parvient pas à lui accorder l'urgence qu'elle requiert, déplore-t-elle. Les familles et les survivants méritent justice, et ce gouvernement continue de les décevoir. C'était « Autochtones disparus et assassinés. Les actions se font toujours attendre ». Un texte de Marianne Despelteau de Franco-Presse paru le 4 juin 2024 dans le Franco en Alberta.
Wilfrid Laurier a favorisé une politique migratoire expansionniste. Un texte de Lila Berdé, paru le 23 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto. À la fin du 19e siècle, le Canada entre dans l'ère du libéralisme avec Wilfrid Laurier, 7e premier ministre du Canada, mais premier Canadien français à cette fonction. Son objectif, faire du Canada une grande puissance à l'aide d'une politique migratoire. C'est ce qui nous a fait découvrir le conférencier et comédien Christian Baude lors de la conférence Wilfrid Laurier, les Doukhobors, les Ukrainiens, les Français, les Noirs, organisée par la Société d'histoire de Toronto la semaine dernière à l'Alliance française. C'est sous la forme d'une conférence théâtrale, pas une pièce de théâtre, mais presque, que Christian Bode s'est glissé dans la peau de Wilfrid Laurier afin de retracer ce pan d'histoire du Canada entre témoignages et lecture de textes politiques. Sur la scène du Théâtre de l'Alliance française de Toronto, il était accompagné par les comédiens Adrien Voye, dans le rôle d'un conférencier journaliste, ainsi que de Régine Guyomard et François Maurice, qui interprétaient respectivement une immigrante ukrainienne et un Doukhobor. Wilfrid Laurier, père du libéralisme. Né en 1841 au Québec, Wilfrid Laurier était avocat avant de devenir l'une des figures politiques les plus influentes de l'histoire du pays, qu'il a dirigé de 1896 à 1911. Élu à la Chambre des communes en 1874, il devient chef du Parti libéral. Cette période, marquée par la relance d'une croissance économique prometteuse et d'un développement des industries, présente de nouveaux défis face auxquels Wilfrid Laurier doit s'adapter. À la fin du 19e siècle, la doctrine libérale est controversée, considérée comme véhiculant des idées perverses selon les catholiques. Wilfrid Laurier rappelle que le libéralisme n'est pas une idée nouvelle. Il s'agit de s'adapter aux nouvelles mutations qui traversent le pays, à l'aide de réformes. L'Ouest est vide, il faut le peupler. En 1885, le chemin de fer transcontinental voit le jour. Cette innovation technique permet l'exploitation de vastes terres agricoles dans les prairies canadiennes, un atout économique non négligeable. Sous l'influence de Clifford Sifton, procureur général du Manitoba, Wilfrid Laurier stimule le peuplement de l'Ouest canadien. Ce projet impliquait le rachat des terres des populations autochtones et la signature d'accords avec les Métis afin de réaménager le territoire en construisant des villes et en développant les infrastructures. Cette politique a également encouragé l'essor des secteurs des ressources naturelles comme l'exploitation minière et forestière. En 1905, les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan voient le jour, marquant une étape significative dans l'expansion et la gouvernance du Canada. Commerce et diplomatie. Sous Wilfrid Laurier, le Canada s'émancipe peu à peu de la Grande-Bretagne et cherche sa propre autonomie. C'est d'ailleurs ce qui caractérisera le libéralisme face au conservatisme. Face aux États-Unis, en dépit de tensions territoriales liées à l'Alaska ou encore aux frontières maritimes et au développement de la pêche, la croissance industrielle favorise les échanges commerciaux entre les deux pays. Les Doukhobor, lutteurs de l'esprit. Le peuplement des plaines de l'Ouest canadien ne se fait pas du jour au lendemain. Le gouvernement canadien invite des milliers d'immigrants de s'installer sur les territoires, dont des Doukhobor. En conflit avec les tsars en Russie, les Doukhobor sont en rupture avec l'Église orthodoxe et défendent des valeurs pacifistes. Appelés lutteurs contre le Saint-Esprit en Russie, ils se définissent plutôt comme des lutteurs avec le Saint-Esprit. En 1899, ils sont près de 7500 à arriver en bateau au Canada. Alors qu'ils sont persécutés en Russie, Wilfrid Laurier et Clifford Sifton voient en eux le profil parfait pour repeupler les terres nouvelles de la Saskatchewan. Ils y vivront alors en communauté, finissant par devenir copropriétaires de ces terres, acteurs du plan lancé par le gouvernement libéral. Intensifier les flux migratoires. Tout comme les Doukhobor, De nombreux autres immigrants viennent peupler l'Ouest canadien, des flux migratoires servant à enclencher la croissance du pays. Environ 7 000 Ukrainiens arrivent pour travailler dans les champs du Canada. Les tensions ressurgissent avec l'arrivée de 6 000 Américains et Britanniques en 1899, accentuant les défis d'intégration et les remises en question des droits des immigrants. Malgré cela, Wilfrid Laurier continue de promouvoir une immigration ambitieuse visant à augmenter la population canadienne de 6 millions au début des années 1900 à 20 millions au début du 20e siècle. Comme quoi l'histoire se répète, le Québec reproche au gouvernement libéral de ne pas réussir à attirer les immigrants francophones malgré ses efforts pour attirer les populations françaises, belges ou encore suisses, notamment à l'aide de publicité. En 1911, les gens de l'Ouest s'opposent à l'immigration des Noirs américains malgré leur faible nombre. Un gaspillage des fonds publics, selon des journaux comme Le Devoir. Des pétitions circulent à Edmonton contre ces immigrants, entraînant un moratoire d'un an qui sera ensuite annulé. Avant la Première Guerre mondiale, environ 400 000 immigrants provenant d'autres pays d'Europe de l'Est et même d'Asie ont colonisé l'Ouest canadien. Parallèlement, 1 million de Canadiens français, fuyant la pauvreté, travaillent dans les usines de la Nouvelle-Angleterre. Des critiques attaquent Wilfrid Laurier pour avoir attiré une certaine catégorie d'immigrants aux dépens de l'influence française. Défaite du gouvernement Laurier et controverse. Au regard des progrès mis en œuvre par le gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, son programme aura suscité de nombreuses désapprobations, le laissant avec une réputation mitigée. Malgré ses efforts pour trouver un compromis entre impérialistes britanniques et nationalistes canadiens, sa création de la Marine royale canadienne en 1910 pour soutenir l'Angleterre a été très critiquée. Un an plus tard, accusé au contraire de favoriser une annexion politique avec les États-Unis, Wilfrid Laurier perd les élections face aux conservateurs qui reprennent le pouvoir. C'était Wilfrid Laurier a favorisé une politique migratoire expansionniste. Un texte de Lila Berdet, paru le 23 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto.